et les instruments existants de la régulation internationale de la culture à l'ère du numérique, ou est-ce qu'il est plus approprié d'adopter de nouveaux instruments? Donc, pour répondre à cette question sous l'angle de la science politique, il est nécessaire d'analyser les liens entre commerciaux, culture et numérique à travers les rapports de force, les préférences et les ressources des acteurs impliqués, leur intérêt de revisiter les instruments existants. Et pour cela, il est nécessaire de mettre l'accent sur trois échelles. Échelle internationale, échelle plurilatérale régionale et échelle bilatérale. Donc il y a différentes échelles sur lesquelles le lien commerce-culture numérique évolue, et il y a parfois un écart, un décalage normatif entre les trois échelles, et donc les évolutions normatives ne sont pas synchronisées. Donc je vous rappelle que la problématique majeure, la problématique initiale de notre enjeu a été celle du traitement à accorder aux produits et services culturels dans les accords commerciaux, dans la mesure où la capacité des gouvernements d'intervenir dans le secteur de l'industrie culturelle dépendait de plus en plus de leurs engagements internationaux. Donc d'abord, échelle internationale, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce. D'abord, on doit revenir très rapidement sur la question exception culturelle. Donc en 1993, l'administration américaine propose l'inclusion de l'audiovisuel dans l'accord général sur le commerce des services. Et d'un autre côté, la France, le Canada et d'autres pays soutiennent l'exception culturelle qui cherche à soustraire l'audiovisuel de l'agenda de négociation. Donc, résultat final, le secteur audiovisuel est soumis aux règles de l'OMC, mais à l'absence offre, l'Union européenne, le Canada et plusieurs d'autres pays ont choisi d'exclure les produits et services audiovisuels des négociations. Donc, l'OMC est compétente en matière de commerce de produits et services culturels, et ces derniers ne sont pas exclus du champ de négociation de façon permanente, même si les services audiovisuels sont l'un des secteurs où le nombre de membres de l'OMC ayant pris des engagements en matière de services est le plus faible. Donc, jusqu'à présent, 30 membres de l'organisation ont accepté d'être soumis à certaines restrictions dans le secteur de l'audiovisuel. Et là-dessus, il y a en fait un point intéressant qui révèle les pressions exercées par les États-Unis en faveur de la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, mais aussi l'importance des alliances à l'échelle internationale. Donc, 18 États sur 134 membres fondateurs de l'OMC ont pris des engagements dans le secteur de l'audiovisuel en 1995, alors que dans la période 1996 et 2011, 12 États sur les 21 nouveaux adhérents à l'OMC ont pris des engagements en matière de services audiovisuels, et les 9 pays qui n'ont pas pris d'engagement sont surtout ceux qui ont adhéré à l'Union européenne ou sont en train de négocier leur adhésion, et donc ils doivent respecter les droits communautaires, c'est-à-dire Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie ou par exemple Albanie ou Ukraine. Donc depuis le début des années 2000, l'OMC, comme on sait, traverse une crise structurelle. Et donc quelles sont les évolutions récentes de notre enjeu au sein de l'OMC? D'un côté, on a une évolution à travers l'organe de règlement des différends qui a condamné la Chine en 2009 pour ses pratiques commerciales dans le domaine culturel, à la suite du plan des États-Unis déposé en 2007. Et d'un autre côté, on a des négociations plurilatérales dans le secteur des services qui inclut actuellement 23 économies, faisant partie du groupe informel de l'OMC, Really Good Friends of Services, dont les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, mais aucune puissance dite émergente comme la Chine, le Brésil ou l'Inde. Donc les négociations portent sur tous les secteurs des services, y compris les services de technologie, de la formation et de la communication. Et actuellement, on est au sixième cycle des négociations. Et d'ailleurs, le mandat de négociation de la Commission européenne prévoit une exclusion des services culturels et audiovisuels. Et puis, échelle plurilatérale, régionale, là-bas, nous retrouvons les négociations du partenariat transpacifique, qui se poursuivent entre 12 États actuellement, dont les États-Unis, le Canada, le Japon et le Mexique. Donc jusqu'à présent, 7 pays restent favorables à une exemption du secteur culturel du partenariat, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili ou le Canada. Et 5 pays s'oppose à une exception culturelle, à savoir les États-Unis, le Mexique, le Pérou, le Japon et Singapour. Et enfin, on passe à l'échelle bilatérale, et ici on doit revenir sur les négociations entre les États-Unis et l'Union européenne, et sur l'accord entre le Canada et l'Union européenne. Donc, concernant le partenariat transatlantique, le mandat de la Commission européenne prévoit aussi une exclusion des services culturels et audiovisuels. Mais l'exception culturelle ne fait pas le consensus au sein de l'Union européenne et le débat actuel met en lumière un clivage entre deux positions divergentes. D'un côté, une position favorisant l'intégration publique dans le secteur des produits et services culturels, y compris les services numériques, et une position privilégiant une régulation économique du secteur. Donc d'un côté, nous retrouvons la France, l'Italie, la Belgique et d'autres pays, les organisations professionnelles de la culture, mais aussi le Parlement européen. D'un autre côté, nous retrouvons l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, mais aussi la Commission européenne, ainsi que les opérateurs de télécommunications et les grandes entreprises d'Internet. Et d'ailleurs, l'inclusion des services culturels numériques dans l'agenda de négociation est une des grandes priorités de l'administration Obama actuellement. Et je vous rappelle qu'au cours des transactions et en fonction des offres de la part de l'administration Obama, la Commission européenne pourrait revenir sur les mandats et le réviser si les États européens l'autorisent à l'unanimité. Et enfin, concernant l'accord entre le Canada et l'Union européenne, ici on a l'évolution la plus importante qui pourrait influencer le débat dans les autres échelles. Donc l'accord prévoit une nouvelle approche de l'exemption culturelle, incluant 3 éléments. Premier élément, la préambule de l'accord fait mention explicite de la convention sur la diversité culturelle. Deuxième élément, le Canada inscrit sa définition habituelle des industries culturelles qu'on retrouve dans ses accords depuis l'ALENA. Et troisième élément, l'exemption culturelle est demandée dans chacun des chapitres de l'accord où les deux partenaires ont des politiques culturelles à protéger. Donc il s'agit d'une approche chapitre par chapitre. Et donc, concernant cette nouvelle approche, on doit s'interroger sur 3 enjeux et je vais conclure avec ça. Donc, premier enjeu, d'abord, il apparaît que la nouvelle approche n'est pas le fruit d'un consensus des négociateurs, mais l'émanation d'un compromis politique qui traduit les résistances de plusieurs acteurs contre l'inclusion d'une exemption culturelle générale dans l'accord. Pour cela, dans les autres négociations commerciales, l'exception culturelle semble être vulnérable, notamment dans les secteurs qui touchent les nouvelles technologies. Deuxième enjeu, la nouvelle approche nécessite d'une expertise très ciblée concernant le secteur culturel qu'on doit exempter. Donc les risques consiste que les domaines culturels qui ne sont pas spécifiquement exemptés seront automatiquement couverts par des engagements de libéralisation. Et en plus, le risque consiste de négliger des secteurs qui pourraient être considérables dans l'avenir suite à l'arrivée des nouvelles technologies. Et là-dessus, je dois mentionner 2 points importants. Premier point, comment définir un service culturel à l'ère du numérique. Et si je vous donne un exemple, la polémique actuelle au sein de l'Union européenne concernant le taux de la TVA pour les livres numériques. Pour la France, par exemple, le taux du livre numérique doit être aligné sur celui du livre physique, considéré comme un bien culturel avec un taux réduit, alors que pour la Commission européenne, le livre numérique est assimilé à un service en ligne qui doit être taxé au taux normal. Et deuxième point important, c'est la question de l'intégration ou de la non-intégration des grandes sociétés du numérique dans l'économie de la création culturelle et donc dans les dispositifs de soutien à la création artistique. Et enfin, le dernier enjeu de la nouvelle approche, apparemment la nouvelle approche d'exemption culturelle consiste à construire des passerelles entre le droit international de la culture et le droit international du commerce à l'ère du numérique. Cependant, il est nécessaire de s'interroger sur la double nature de la nouvelle approche. C'est-à-dire que ce que le droit international de la culture gagnerait en complémentarité et dialogue avec les régimes commerciaux, il est possible de le perdre en clarté et précision. Il est clair que la complémentarité ne suppose ni l'égalité des cadres normatifs autour de la gestion internationale de la culture, ni leur réciprocité. Et pour finir, je me demande si on devrait craindre que dans le contexte de la mutation numérique, l'application de la coopération dans un accord commercial mènerait à une assimilation progressive des normes du droit international de la culture par le régime commercial qui est plus puissant, plus rigoureux et plus élaboré. Donc je vous remercie de votre attention et je reste avec vous pour des questions et des commentaires. Merci beaucoup.